avant départ, vous n'oublierez pas bien sûr de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au marathon féminin. D'abord, focus sur la course des Millinettes, ou course des jeunes ouvrières du textile. Nous sommes en 1903, et elles sont plus de 2500 à rallier à la course ou à la marche Paris à Nanterre, sur 12 km. La couturière, Mademoiselle Jeanne Cheminel, l'emporte en 1h10. Elles sont couturières, fileuses, bobineuses, cardeuses, ourdisseuses. Le lexique des métiers du textile est féminin et répond à l'appel des usines aux conditions de travail difficiles, et cela à partir de 1850. Néanmoins, les Millinettes, ou ouvrières de l'aiguille, forment l'aristocratie de la classe ouvrière. Leurs références sont celles de la petite bourgeoisie de la Belle Époque, de 1880 à 1914. Formées, autonomes, jeunes, célibataires, elles peuvent pratiquer la course à pied. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, elles manifestent et obtiennent de leur patron leurs revendications. Et pourtant, que nous révèle l'analyse historique? La première course répertoriée en France ne remonte pas aux années 1900, mais au Moyen-Âge. En juillet 1168, c'est à la foire de Beaucaire, en Languedoc, qu'on retrouve une course féminine. Les marchandises commencent à circuler et toute l'Europe organise des courses féminines. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour voir le premier meeting d'athlétisme organisé par la première université réservée aux femmes de New York. En 1896, une femme grecque demande à participer aux premiers jeux de l'ère moderne. C'est refusé. Elle parcourt néanmoins la distance qui sépare Marathon d'Athènes. La grande instigatrice de l'athlétisme féminin en France s'appelle Alice Milliat, née en 1884 et ayant vécu à Londres, veuve très tôt, sans enfant, elle regagna la France et se prit de passion pour le sport féminin. Elle pratiqua l'aviron, elle devient ensuite présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France, FSFSF. En 1919, elle demande au Comité olympique international, présidé par le baron de Coubertin, d'introduire des épreuves féminines aux Jeux olympiques d'Anvers 1920. Refus catégorique du baron. Elle repartira au combat. Ce fut long et difficile. En 1928, aux Jeux olympiques d'Amsterdam, quelques épreuves d'athlétisme sont ouvertes aux femmes. Le 100 mètres, le 800 mètres, hauteur, disque, relais 4 fois 100 mètres. Il est vrai qu'à l'époque, le baron de Coubertin était éloigné des décisions. 1936 voit l'apogée de son œuvre. Le sport féminin explose, et c'est très bien. Les grandes stars des Jeux olympiques de Londres 1948 sont des femmes, à l'exemple de l'athlète néerlandaise Francina Blankers-Koen, une mère de famille de 30 ans qui remporte 4 médailles d'or, 100 mètres, 200 mètres, 80 mètres et relais 4 fois 100 mètres. Michèle Ostermeyer est la première championne olympique française au disque et au poids. Cathy Switzer, dite Marathon Woman, est la première femme à courir le marathon de Boston en 1967. Cathy Switzer, dossard de 161, 20 ans, avait dû se déguiser en homme pour participer au marathon de Boston ce dimanche 19 avril 1967. Elle bouclera la distance en 4 heures. Son compagnon devra recourir à la force pour éviter que les commissaires de course arrêtent Miss Switzer. La première participation d'une Française dans un marathon français a lieu le 29 octobre 1972 à Neubrisach dans le Haut-Rhin. Trois participantes, l'Américaine Cathy Switzer, l'Allemande Elfriede Rapp et la Française Ingrid Schoewin. C'est la Française qui l'emporte en 3 heures 16 minutes 16 secondes. Ingrid Schoewin est la première marathonienne française et dire que la gendarmerie était réquisitionnée pour faire appliquer le règlement, c'est-à-dire stopper les femmes qui avaient pris le départ. Lors du premier marathon de New York, il y a 50 ans, en 1972, ils sont 127 au départ, dont une femme marathonienne militante, Nina Kutchik, aujourd'hui âgée de 82 ans, ancienne infirmière et qui témoigne. « On nous faisait partir 10 minutes après les hommes. J'ai commencé à étudier les règles édictées par la Fédération internationale pour voir comment on pouvait les changer. Moi, je voulais juste courir et faire de la compétition. » En 2019, près de la moitié des 53 250 participants au marathon de New York étaient des femmes. En 1984, aux Jeux de Los Angeles, les femmes ont le droit d'avoir leur marathon olympique. C'est donc parti pour une longue histoire. Kathy Swidger est commentatrice pour la télévision américaine. Comme première image, on ne retiendra pas l'américaine Jane Bunnott qui gagne le marathon de Los Angeles 1984 devant la favorite de la norvégienne Gretel Weiss, mais davantage la Suissesse Gabrielle Andersen-Scheis qui va vivre un véritable calvaire lors de son arrivée. Victime d'un coup de chaleur, divagant, elle effectue le dernier tour de piste en 5 minutes 44 secondes avant de s'effondrer dès la ligne franchie. Son temps à l'époque est pourtant celui d'une championne, 2h48 minutes. En 1988, aux Jeux Olympiques de Séoul, c'est l'apogée pour la petite Portugaise Rosa Mota dans un temps de 2h25 minutes 40 secondes. Mais en 1988, il y a toujours suspicion de dopage sur l'Allemande de l'Est, Catherine Deroué. Sa grossesse intentionnelle s'inscrit dans le but de provoquer une augmentation du volume sanguin et plasmatique entraînant le transport d'une plus grande quantité d'oxygène, une sorte de PO avant le PO. Néanmoins, cette suspicion de dopage n'a pu être officiellement prouvée et l'Allemande n'a jamais rien avoué. Petit gabarit, la Portugaise Rosa Mota, petit bout de femme de 1m57 pour 48 kg, l'emporte en 2h25 minutes 40 secondes, soit 13 secondes d'avance sur l'Australienne Lisa Martin. 4 ans auparavant, à Los Angeles, Rosa Mota avait fini troisième derrière un autre petit gabarit, l'Américaine Jane Bunnott. Preuve que la morphologie n'a rien à voir avec l'effort exigé. C'est le couronnement d'une grande, triple champion d'Europe et aussi double champion du monde, vainqueur des marathons internationaux prestigieux comme Chicago et Boston. Rosa Mota est née en 1958. Elle s'est mise à courir pour échapper à son destin de fille de mécanicien d'un quartier populaire de Porto. Elle montrera le chemin dans les années 1990 à une génération de coureuses portugaises brillantes. Fernanda Ribeiro, vainqueur du 5000 mètres d'Atlanta 1996, ou la marathonienne Manuela Machado. À la suite de sa carrière athlétique, Rosa Mota deviendra députée socialiste au Parlement portugais. Mais l'histoire retiendra surtout Gretel Weiss, la reine de New York, 9 fois vainqueur du marathon de New York entre 1978 et 1988. La Norvégienne est aussi devenue la première femme à couvrir la distance en moins de 2h30. En 2005, elle annonce publiquement un traitement contre le cancer. Elle décédera en 2011 à 57 ans de son cancer. Mais heureuse Norvège qui peut compter aussi sur Ingrid Christiansen, à Londres, le 21 avril 1985, elle réalise un temps historique de 2h21 minutes 6 secondes. Elle détiendra le record du monde de 1985 à 1998. La première femme à franchir la barre des 2h20 minutes est la japonaise Naoko Takahashi, qui, le 30 septembre 2001, à Berlin, réalise 2h19 minutes 46 secondes après avoir été championne olympique à Sydney en 2000. Le Japon est une terre de marathon, et cette course très prisée socialement au pays du soleil levant correspond bien à la culture de ce pays où les qualités d'endurance et d'abnégation sont portées au pinacle. Enfin, émerge la Britannique Paula Radcliffe, 1m113, 54 kg, ancienne détentrice du record du monde féminin du marathon avec un temps de 2h15 minutes 25 secondes, obtenu lors du marathon de Londres en 2003. Son temps de passage à mi-parcours était de 1h 8 minutes, 1 seconde, inouïe. Paula Radcliffe est née le 17 novembre 1973 à Norwich, dans le Cheshire. Elle débute la course à pied, bien que souffrant d'asthme et d'anémie. C'est au départ une spécialiste du cross-country avant de passer à la route. elle va fréquenter la même université que Sebastian Coe. Paula Radcliffe est la grande favorite des Jeux d'Athènes 2004, mais elle craque, abandonnant au 35e kilomètre, laissant la victoire à une Japonaise, Mitsuki Noguchi, devant la Kenyane Catherine Ndereba. Blessée lors des dernières grandes confrontations, elle se donne comme objectif de remporter le marathon de Londres 2012 chez elle. Peine perdue et fin de carrière. Dans cette histoire du marathon féminin, il ne faut pas oublier, comme d'habitude, l'Afrique, plus précisément les Kenyanes et les Éthiopiennes. Ces pays acceptent de mieux en mieux l'idée de la femme coureuse. Pendant longtemps, les hommes ne toléraient pas l'idée qu'elle court en short. Elle devait être courageuse pour s'entraîner. Tegla Lorupe et Catherine Ndereba sont devenues des stars au Kenya et l'attrait du gain a bouleversé les traditions les plus ancrées. La Kenyane Jemima Chumbong est la nouvelle reine à Rio en 2016. Elle apporte au Kenya sa première médaille d'or au marathon féminin des Jeux Olympiques. Le 13 octobre 2019, au cours du marathon de Chicago, la Kenyane Brigid Kosgei bat le record de Paula Radcliffe, vieux de 16 ans, de plus d'une minute. En réalisant 2h14 minutes 4 secondes, elle finira deuxième au marathon des Jeux Olympiques 2021 de Tokyo, derrière une autre Kenyane. Les petites filles modestes africaines ont parcouru un long chemin par la seule force de leur foulée. Pour les Kenyanes et les Éthiopiennes, faire du marathon est un des rares moyens de s'en sortir dans la vie. Elles s'entraînent toute l'année en altitude, n'exigeant pas les mêmes conditions matérielles que les athlètes occidentales. L'actuel record de France est la propriété de Chantal Donné en 2h24 minutes 22 secondes, amélioré le 11 avril 2010 au Marathon de Paris. Chantal Donné, magistrale au dernier championnat d'Europe de Zurich 2014, mais malheureuse à Rio de Janeiro 2016, abandonnant à mi-parcours. À plus de 40 ans, elle n'a pu imiter la Roumaine Constantina Tomescu, qui a remporté à l'âge de 38 ans le marathon des Jeux de Pékin 2008 devant les Kenyanes et les Chinoises. En effet, sur le marathon, même au plus haut niveau, l'âge et l'expérience deviennent un avantage. En avril 2019, au marathon de Paris, Clémence Calvin avait réalisé 2h23 minutes 41 secondes, mais en décembre 2019, elle a été suspendue 4 ans par la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage. Le record de France appartient donc bien toujours à la Sartoise Christelle Donné. Elle est bien l'arbre qui cache et a caché la forêt bien clairsemée ou inexistante du running féminin de haut niveau en France. Christelle Donné était dotée d'une abnégation incroyable, unique. Pas simple de trouver aujourd'hui des jeunes de 20 ans qui vont vouloir faire 200 à 250 km par semaine à l'entraînement et se concentrer sur deux courses dans l'année, une au printemps, une autre en automne. L'idée couramment acquise que l'on monte sur le long vers 35 ans est aujourd'hui une idée fausse. Le bon âge pour le marathon, tant chez les hommes que chez les femmes, est bien 25 ans. Les clubs d'athlétisme ont encore trop souvent tendance à déconsidérer le running, terme retenu par la Fédération française d'athlétisme qui a remplacé le hors-stade, au détriment des épreuves d'athlétisme classiques, et ne sont donc pas en adéquation avec les modes de vie de cette masse de coureurs à pied, près de 5 millions. Au Japon, très jeune, les filles enchaînent les kilomètres pour briller à Hakone, la Mecque de l'équidène ou marathon en relais inventé dans ce pays, jusqu'à griller les étapes ou se griller elles-mêmes. Le marathon féminin, une histoire récente, en construction, des continents à découvrir, une géopolitique. Jean Giraudoux ne disait-il pas: ce sont les nations qui ont les meilleurs coureurs à pied qui sont arrivés les premiers au pôle. L'écart entre le record du monde du marathon masculin et le record du monde du marathon féminin est aujourd'hui de 13 minutes. Ce n'est rien, et plus on accède à des épreuves de plus longue endurance, 24 heures par exemple, les femmes dominent régulièrement les hommes au scratch. C'est que les femmes courent plus prudemment. Elles sont plus nombreuses à franchir le seuil du 30e kilomètre au marathon et statistiquement, elles n'abandonnent au moins que les hommes. La volonté et le mental sont leurs points forts, en plus de l'organisation matérielle. Derrière tout cela, et aujourd'hui plus qu'hier cette question, pourquoi nous ne nous lassons jamais de courir? Sans doute pour supporter notre existence, se mettre en phase avec le sacré de son être, sans ça on meurt, On a besoin d'être en contact avec la nature, on se protège avec la beauté des choses. Courir, c'est se connaître. Cela rend plus fort.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.